France Culture, les pieds sur terre.
Bon, je m'appelle Sophie Kazicki. Alors, cette histoire commence lorsque des jeunes que je connaissais en France étaient partis pour la Syrie. C'est des jeunes que je connaissais bien, dont je connaissais très bien les familles aussi, les parents, les frères et sœurs, enfin les personnes qui les entouraient, et qui fréquentaient l'établissement où je travaillais. Je travaillais dans le social. Quelques mois après leur départ, premier coup de fil qui m'appelait de Raqqa, donc pour nous dire qu'ils y étaient arrivés, qu'ils étaient là-bas et que tout se passait bien pour eux. C'est vrai que quand ils ont appelé la première fois, je m'inquiétais presque autant que leur famille. Mais bon, eux essayaient de nous rassurer. Ils avaient un discours bien rodé dès le départ pour nous rassurer, pour dire que voilà, ce qu'ils faisaient n'avait rien de mal et que tout se passait bien pour eux.
Comment vous avez-vous eu envie de les rejoindre et de partir aussi en Syrie? Comment ça s'est passé, Sophie?
Écoutez, ça s'est passé là maintenant, avec encore pas mal de recul. Je peux dire que ça s'est passé avec... Ça a pris du temps, le processus. Mais disons que le premier coup de fil de ces jeunes, de ces jeunes hommes, n'était pas anodin. Ce n'était pas juste, je pense, pour donner des nouvelles, des simples nouvelles. C'était sûrement pour en prendre, comme ils ont dû en faire à d'autres personnes autour d'eux. Et je pense que leur but final était, comme ils l'ont fait pas mal de temps, c'était d'attirer le plus de monde à eux. J'étais mariée, mère de famille. Et en échangeant avec ces garçons sur mes envies, sur les échecs que je pouvais rencontrer, que ce soit au travail, que ce soit sur le plan personnel, j'ai eu, en tout cas assez vite, l'impression qu'ils étaient à l'écoute. Et je leur ai toujours parlé de mon envie d'aller aider. Ils ont commencé à me parler de ce qu'eux faisaient là-bas, du besoin qu'ils avaient pour aider, que je pouvais venir voir un peu ce qui se passait, que je pouvais aider dans les maternités parce que ils connaissaient mon intérêt pour les enfants. Donc voilà, c'est parti de ce besoin-là. Et petit à petit, ils ont commencé justement à me parler de manière assez... insistante de venir le rejoindre, pour voir exactement ce qui s'y passe. J'étais déjà convertie à l'islam, mais ça datait de quelques années avant. Bon, alors j'ai pris mon billet la veille, hein. Donc la préparation ne s'est pas faite des mois ou des semaines en avance, parce que j'étais convaincue. J'ai longtemps, très très longtemps hésité, jusqu'au dernier moment. Même à l'aéroport, en arrivant, j'étais comme happée en fait. J'avançais tout en ayant mentalement, moralement quelque chose qui me retenait en fait. C'est mon mari qui nous a accompagnés. On a eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à dire au revoir parce que je me sentais comment dire, je m'en voulais de partir avec mon petit garçon.
Qui avait quel âge?
Qui avait 3 ans. Sans leur dire exactement où j'allais. On décolle et on s'en va. Et les mots qui m'avaient été dits par les jeunes hommes que j'avais au téléphone servaient de béquille justement dans cette bêtise, dans tout va bien se passer, vous faites votre voyage tranquillement, ne le dites à personne, ne le dis à personne surtout où tu vas. Et Le visage de mon mari, justement au moment de le revoir, me remettait un peu à la réalité, mais malgré tout, j'étais comme happée, donc je continuais dans cette destination infernale. C'était fait par étapes. Donc en arrivant, je savais qu'il fallait descendre à Istanbul, et qu'à Istanbul, une personne viendrait me chercher. Et on a roulé donc tout autour c'était des champs un peu, bon c'était en hiver, donc c'était des champs assez, enfin c'était mort quoi, et vide et très calme. Et voilà, on a roulé jusque dans le centre de Raqqa. Arrivé dans Raqqa, c'était bon, la ville était comment dirais-je, c'était froid, ça ne circulait pas beaucoup. Donc les hommes armés, les femmes voilées, mais sur le coup, c'est vraiment ça qui choque d'abord. Puisqu'en pleine rue, on voit en général c'est des occidentaux, hein, les hommes occidentaux avec des armes, des grosses armes sur les épaules.
Comment vous saviez que c'était des occidentaux?
Parce qu'on voyait par leur, soit c'était, ils étaient blancs, enfin tu vois, on voyait des convertis, enfin des gens soit convertis autres, mais en tout cas ils étaient d'aspect européen, c'était l'aspect européen. Soit parce que ils avaient une manière de se, enfin des tenues, alors des baskets, voir des jeunes hommes avec des baskets achetées dans les magasins français ou je ne sais dans quel pays européen, donc ça se remarque aussi. Voilà, c'est surtout les chaussures, les petits détails comme ça qui, ou les petites pochettes, mais bon, les choses qu'on voit régulièrement dans nos pays occidentaux, quoi.
Vous découvriez la guerre, la réalité de la guerre, c'est ça?
Justement, c'était la guerre, mais en même temps, pour eux, ça n'avait pas l'air d'être la guerre, puisqu'ils avaient l'air assez bien là-bas. Donc, c'est ce qui était aussi bizarre. Donc, ils m'ont ramenée dans cette maternité où je suis allée pendant quelques jours, qui accueille une maternité tenue par Daesh. Le comportement que j'ai pu voir dans cette maternité, le comportement de ces femmes occidentales et venant d'autres pays du Maghreb ou du Moyen-Orient qui venaient là pour soigner ces femmes, qui se comportaient envers elles de manière la plus odieuse, quoi, en les traitant de moins que rien et se faisant passer pour les intellectuels venus pour sauver les petits gens. Enfin, c'était vraiment le comportement que moi j'appelle de colons. Voilà, eux étaient là, soi-disant, pour rééduquer, comme il faut dire, la population syrienne. Enfin, je n'ai rien à faire là, j'avais pas ma place là, je me sentais pas bien, j'étais pas bien, et puis ce qui s'y passait ne me plaisait pas du tout, ce que je voyais ne me plaisait pas du tout, c'est pas ce que je suis venue faire. Donc à partir de là, on a commencé à parler du retour. J'en ai parlé à ces jeunes hommes en disant que je souhaitais rentrer plus tôt que prévu. Là, en fait, tout a basculé parce que c'est devenu très très dur pour moi de discuter avec eux. Donc, il y a eu énormément de tensions, donc entre les injures et puis ils se sont permis même une fois de me frapper parce qu'ils voulaient emmener mon fils à la mosquée, que je leur ai dit que mon fils n'était pas musulman. J'avais plus les personnes que j'avais rencontrées à l'arrivée à Raqqa ou les personnes que j'avais en France. C'était pas les mêmes têtes. J'avais en face de moi des espèces d'animaux réellement. Parce qu'il y avait une espèce de haine dans leurs discours, dans ce qu'ils me disaient et dans leur manière de se comporter envers moi.
Donc la grande sœur Sophie, c'était fini, c'était plus du tout cette relation-là.
Ah non, pas du tout, pas du tout. À ce moment-là, j'étais pas la grande sœur, j'étais l'ennemie. Et c'est vrai que je le sentais et je le voyais par leur. Pour moi, j'avais des ennemis en face de moi. Ils m'ont enfermée, donc j'ai été enfermée dans cet appartement où nous étions. Je sortais que quand je pouvais trouver une excuse, c'est-à-dire aller acheter des serviettes hygiéniques que eux ne pouvaient pas acheter pour moi, puisque ça devait les dégoûter. Donc c'est à ce moment-là que j'en profitais quand je pouvais, quand c'était possible, pour donner un signe de vie à mon mari. J'ai juste crié, on est à Raqqa, on est enfermé, et voilà, et ça s'est coupé, j'ai dû parler pendant 10 secondes. Ça devenait impossible. C'était soit ils nous tuaient, soit je les tuais. On est passé par des phases très très difficiles, dans le sens où je me rappelle un moment où je savais très bien qu'ils ne nous laisseraient jamais sortir. J'ai même pensé, je me suis dit, soit ils vont nous faire tuer, ou soit il faudra un moment que je prenne quand ils posent leur arme pour aller, parce qu'à un moment j'ai même réveillé. Il y a un des garçons qui était venu, je pense, ils allaient tout de suite à la mosquée après, donc il est parti, je pense, faire ses ablutions. En tout cas, il s'est séparé de son arme quelques minutes pour donc il l'a posé. Donc moi, j'ai vu ce truc et je me suis imaginé prendre la chose et puis défendre, en gros, les tuer pour m'enfuir avec mon fils, enfin nous libérer, quoi. C'était eux ou nous. En plus, en tant que femme, on ne peut rien faire. Arriver là-bas, c'est impossible de faire marche arrière. Les gens qui reviennent, ce sont des sortes de miraculés. Je ne sais pas comment on peut les appeler. On est à compter. On nous compte dans les doigts de la main. On ne revient pas. On ne revient pas de là-bas. Et parce que moi, j'ai vu des jeunes filles qui se mariaient, qui allaient sûrement être, je ne sais pas, abusées, qui allaient sûrement être battues, qui allaient sûrement finir sous les bombes. Voir ces jeunes filles dans cet état-là, qui attendent l'espèce de entre guillemets, de prince djihadiste, là, qui font, c'est complètement aberrant. Daesh ne laisse pas revenir les gens. Alors, c'était un mardi que j'ai fui la Madafa. Et à partir de là, en fait, j'ai pu contacter les proches, mon mari, en France, et leur dire dans quel état on se trouvait, qu'on avait fui et qu'il fallait nous faire sortir de là. Et à partir de là, le Quai d'Orsay, enfin les autorités françaises ont été mises au courant de notre fuite, mais eux ne pouvaient rien faire pour nous. Donc on a été sortis par l'ASL, le groupe de l'ASL, l'armée syrienne libre. On est parti en scooter, en fait, on est sorti comme des Syriens lambda. Moi derrière, portant mon fils dans les bras, assise en Amazon. On est remonté vers la frontière. On a été pris en charge par les autorités françaises et les proches en Turquie.
Got me.